sais pas si vous vous souvenez, enfin j'espère que vous vous souvenez, hein, que cette année, nous avons passé à peu près 3 mois dans l'Exode. Et dans ce livre, nous avons vu comment Dieu se révèle à son peuple, et avec ces 3 grands thèmes qui se suivent. D'abord, il délivre son peuple, il est un Dieu qui sauve. Et puis ensuite, il fait alliance avec lui, il lui donne sa loi. Et ensuite, il vient habiter au milieu de lui. Et nous avons tout ce qui touchait au culte qui était là. Et en fait, quand on lit ce livre de l'Exode, on pourrait avoir un peu l'impression d'une belle histoire où tout est résolu, où tout va bien, où c'est fini, ça y est, Dieu est là, il est au milieu de son peuple est autour de lui, et c'est parfait. Mais en fait, l'Exode ne finit pas vraiment sur un happy end. Regardez le dernier verset de l'Exode avec moi, ou un des derniers versets de l'Exode avec moi. Donc si vous avez pris une des Bibles là, nous sommes page 70. Et il nous est dit au verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. » Et là, jusque-là, on se dit « Génial !» Mais ça continue. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Vous voyez l'ironie? En fait, Dieu est allé chercher son peuple au fin fond de l'Égypte. Il a fait des plans pour son peuple, pour qu'il lui construise une demeure, pour qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Moïse, qui au chapitre 34 parle Dieu avec Dieu face à face, Dieu dit que c'est son ami, il ne peut pas entrer dans la tente. Et en fait, il est coincé là-dehors. Et il est coincé dehors parce que Dieu est saint et qu'aucun pécheur, aucune impureté ne peut être admise dans sa présence. Dieu est saint. Dieu est saint, il est à part, il est unique. Il est unique comme créateur de toute vie. Il est unique aussi dans son être. Il est totalement juste, totalement bon, totalement pur. Nous avons cette exclamation d'Ésaïe, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la gloire remplit la terre. » Parce que là où est Dieu, sa sainteté se répand. Parce que là où Dieu se tient, le lieu est saint. Regardez, Exode 3, vous vous souvenez? Le buisson ardent, Dieu est là dans le buisson. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Quitte tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens est saint. Pas parce que cette terre est particulièrement sainte, mais parce que Dieu est là dans le buisson. Et on a un problème, parce qu'aucun pécheur ne peut s'approcher d'un Dieu saint. Moïse est en dehors de la tente et Dieu est dedans. Comment est-ce qu'on fait finalement pour s'approcher de ce Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre dans sa présence? En fait, tout cela, c'est l'objet d'un livre. C'est l'objet du livre du Lévitique. Vous savez, ce livre qui a ruiné bien des plans de lecture. On lit la Genèse, c'est palpitant. On lit l'Exode, ça bouge. Ça commence un peu à la fin à devenir compliqué parce qu'il construit le tabernacle une fois, deux fois. C'est un peu long. Et on arrive au Lévitique, c'est fini. Plus rien ne bouge. Il y a des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, du sang qui coule. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans le livre du Lévitique. Et ce matin, je vous propose qu'on passe, mais bien évidemment rapidement, mais sur l'entièreté du livre du Lévitique pour essayer de découvrir pourquoi nous avons ce livre dans nos Bibles et finalement qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce livre. Alors, si la technique veut marcher. En fait, dans ce livre, Dieu va nous montrer 3 moyens de grâce par lesquels il permet à son peuple de vivre dans sa présence. Le premier moyen de grâce, ce sera les rituels. Le deuxième moyen de grâce, le sacerdoce. En fait, le sacerdoce, ce n'est pas un mot très compliqué, c'est le fait d'être entièrement au service de Dieu, les prêtres, le grand prêtre. Et puis, troisième moyen, les règles de pureté. Hop. Alors, le livre du Lévitique, en fait, est découpé en 7 parties qui sont symétriques. En fait, vous allez voir que vous avez des chapitres qui se répondent. On est au chapitre 1. Ils vont se répondre avec les chapitres 23, 27. Et puis, en dessus, on va avoir encore des chapitres, un deuxième groupe de chapitres qui se répondent. Et puis, en dessus, encore un groupe de chapitres qui se répondent. Et un chapitre, enfin, deux chapitres qui sont au cœur du livre de Lévitique. On appelle ça un chiasme. C'est ce qu'on a vu dans Jonas 4 avec Tony la semaine passée. En fait, c'est une. Nous, on lit plutôt les livres avec introduction, développement, conclusion. Eux étaient plutôt dans les parallèles d'idées. Et donc, en fait, ça permettait de mettre en valeur ce qui était au centre. Alors, les chapitres 1 à 7 et 23 à 27 vont nous parler des rituels. Chacun devait pratiquer des rituels pour rester dans la présence de Dieu. Ensuite, les chapitres 8 à 10 et 21 à 22 vont nous parler du rôle des prêtres en tant que médiateurs entre Dieu et son peuple. Les chapitres 11 à 15, 18 à 20 nous parlent de la pureté qui est nécessaire du peuple de Dieu. Et puis au cœur de ce livre, on a un jour spécial, c'est le jour des expiations. C'est l'élément central qui rend tout le reste possible. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans les détails et voir, au fur et à mesure de ces chapitres, finalement, qu'est-ce que nous pouvons trouver. Et on va s'intéresser au premier point, qui sont les rituels. Alors, si vous revenez avec moi, Lévitique 1, verset 1, regardez. Moïse, Dieu appelle Moïse depuis l'intérieur de la tente. Et en fait, déjà, avec le premier verset, il nous met face au problème. Dieu est dans la tente, Moïse est dehors. Et vous verrez que plus tard, ça va changer. Les rituels dans cette partie-là, c'est tout particulièrement les sacrifices. Alors, regardons ça ensemble. Vous voyez, dès le verset 2, il dit « Lorsque l'un d'entre vous fait une offrande ». Et ensuite, il va détailler ce qui doit être fait en fonction de cette offrande. Et on regarde, il y a plusieurs possibilités d'offrandes qui sont faites. Il nous est parlé de gros bétail, si vous regardez au verset 3, de petit bétail au verset 10, des agneaux, des chevreaux, un oiseau au verset 14, des tourterelles ou des pigeons. Et puis, on va trouver aussi des offrandes végétales, si vous parcourez jusqu'au chapitre 2, verset 1, galettes au verset 4, des gâteaux au verset 5. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces premières offrandes-là? En fait, elles sont données au prêtre et le prêtre les brûle. Et quelle est la conséquence du fait que le prêtre les brûle? Regardez, on revient. Verset 9, verset 13, verset 17, chapitre 2, verset 2, 9, 3, verset 5, 11, 16. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Elles sont une odeur agréable à Dieu. En fait, quand vous avez pris un bœuf et que vous l'avez fait brûler, il n'y a plus rien pour vous. Tout est monté à Dieu. Et ce sacrifice était un sacrifice de reconnaissance. Ces trois premiers sacrifices sont des sacrifices de reconnaissance. En fait, la première chose que nous apprend le livre du Lévitique, c'est tout simple. C'est que pour s'approcher de Dieu, nous devons reconnaître qu'il est le Dieu souverain qui pourvoit à nos besoins, qu'il est le Dieu dont nous dépendons. Comment on peut s'approcher d'un Dieu si on ne reconnaît pas qu'on dépend de lui? Et ces trois premiers chapitres nous disent, mais Dieu est Dieu, nous dépendons de ce Dieu et nous exprimons notre reconnaissance envers lui. Mais à partir du chapitre 4, il y a quelque chose qui change. Les sacrifices continuent, mais il y a quelque chose qui change. Regardez au verset 1. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel. Et regardez encore au verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement. Et regardez, ça concerne tout le monde. Au verset 3, nous avons un prêtre. Au verset 22, on a un chef. Au verset 27, on a quelqu'un du peuple. Et qu'est-ce qu'on trouve de commun? À nouveau des sacrifices. Au verset 3, un taureau. Au verset 23, un bouc. Au verset 28, une chèvre, au verset 32, un agneau, ou même en fonction de ses moyens, deux pigeons, deux tourterelles, au chapitre 5, au verset 7, ou même deux litres de fleurs de farine. Et il y a encore une chose qui change. Regardez ce que fait le prêtre cette fois-ci. Au chapitre 4, au verset 4. Allez, on navigue, hein. Je vous ai dit, on va naviguer dans tout le livre. Le but, c'est qu'on le découvre ensemble et qu'on se familiarise avec le livre et qu'il soit facile à lire ensuite. Au chapitre 4, verset 4, il amène le taureau à l'entrée de la tente. Il pose la main sur la tête du taureau. Il l'égorge devant l'Éternel. Le prêtre, qui est consacré par onction, prend du sang du taureau et l'apporte dans la tente de la rencontre. En fait, tout simplement, la personne qui apportait un sacrifice d'expiation reconnaît avoir péché involontairement, par faiblesse ou par négligence. En fait, par ce sacrifice, elle admettait que toutes nos fautes sont d'abord dirigées contre Dieu. Elle disait que finalement, même quand nous ne faisons pas attention et que nous faisons des choses qui contreviennent à ce que veut Dieu, finalement c'est un acte de rébellion contre Dieu. Et finalement, c'est un peu ce que va dire David dans le psaume 51, après son péché. « C'est contre toi et toi seul que j'ai péché. » Et ce n'est pas vrai, il a péché contre Uri, il a péché contre... Mais en fait, le principal concerné par notre péché, c'est Dieu. Le seul qui puisse finalement nous purifier de nos péchés, c'est Dieu. Et en fait, déjà là, il commençait à avoir un principe assez important. Pour que le péché soit pardonné, il faut que quelqu'un paye. Et si ce n'est pas le pécheur qui paye, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Il fallait que le sang coule. Imaginez un peu la scène. Il devait égorger ce taureau, cette brebis, etc., voir son sang couler et voir la vie partir peu à peu de cet animal. Et peu à peu, cet animal sur lequel ils avaient symboliquement déposé leur péché mourait. Et en fait, il prenait conscience que même pour ces péchés qui étaient des péchés involontaires, ça avait de l'importance devant Dieu. Le péché a du poids devant Dieu. Mais ça voulait dire aussi autre chose pour eux. C'est que toute personne peut être pardonnée pour ses péchés. Parce que si vous ne pouviez pas fournir un bœuf, vous pouviez fournir une chèvre. Et si vous ne pouviez pas fournir une chèvre, vous pouviez fournir deux pigeons. Et si vous ne pouviez pas fournir deux pigeons, vous pouviez fournir une galette. Et en fait, les gens ne venaient pas avec quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils venaient avec le peu qu'ils avaient et c'était suffisant pour Dieu. 2 litres de fleurs de farine qui étaient brûlées devant Dieu et Dieu était prêt à pardonner. Et la deuxième chose que nous apprenons dans ce livre de Lévitique, c'est que le péché nous sépare de Dieu, même quand il est involontaire. Et que le pardon est lié à la confession et à l'expiation. Au fait de reconnaître que nous sommes pécheurs et au fait que quelqu'un paye pour le pécheur. Ici, c'était un animal qui prenait la place du pécheur. Pour s'approcher de Dieu, nous devons reconnaître notre péché et notre besoin que quelqu'un paye par sa vie. Mais dans la section qui est parallèle, nous trouvons d'autres rituels. Et on peut aller ensemble au chapitre 23. Donc on se balade, on va vers la fin. Et là, l'ambiance change tout de suite. C'est à nouveau des rituels. C'est à nouveau des rituels qui sont commandés par Dieu. Même pour chacun de ces rituels, Dieu va affirmer à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, fais ceci. Mais c'est quoi ces rituels? Ce sont des fêtes. Chaque fête est instaurée par Dieu lui-même. Chaque fête a pour but que l'on se souvienne de qui est Dieu, de ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire pour son peuple. Et en fait, quand on regarde dans ce chapitre, on voit que autant les sacrifices étaient individuels, c'est-à-dire que je péchais et j'allais voir le prêtre, autant ces fêtes sont communautaires. Regardez. Chapitre 23, verset 2. Il y aura une sainte assemblée. Verset 4. Les saintes assemblées que vous proclamerez à date fixée pour elles, pour la Pâque. Verset 7. Vous ferez une sainte assemblée. Verset 21. Vous aurez une sainte assemblée. Verset 27. Vous aurez une sainte assemblée. Pour la fête des tentes, au verset 34, il y aura une sainte assemblée, etc., etc., etc. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes, des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Pour ces fêtes, tout le monde était là. Tout le monde était rassemblé. Pour ces fêtes, Dieu parle de célébration, de joie, de cadeaux qui sont faits à Dieu. Dieu dit encore une chose, c'est que pendant toutes ces fêtes, le peuple doit laisser de côté ses occupations quotidiennes pour se consacrer à Dieu. Regardez avec moi, verset 3. Vous ne ferez aucun travail. Ça, c'est pour le sabbat. Et le sabbat, on a l'habitude que ça fonctionne comme ça. Mais regardez pour les autres fêtes. La fête des pains sans levain. Verset 7. Vous ne ferez aucun travail servile. En fait, le travail servile, ça évoquait le travail qui vous empêchait d'avoir une relation avec Dieu. En fait, le but, c'était pas de dire, vous pouvez pas vous faire chauffer votre café. Le but, c'était plutôt de dire, vous pouvez pas passer la journée à labourer ou à faire de la comptabilité. Parce que quand vous faites ça, vous pensez pas à Dieu. Et les fêtes avaient vocation à ramener le peuple vers Dieu, à ce qu'il puisse profiter de sa présence. Et les tâches serviles, ce sont les tâches qui absorbent notre esprit, notre temps et nous privent de la présence de Dieu. Mais on trouve ça tout le long. Au verset 24, vous aurez un jour de repos pour la fête des trompettes. Ou encore, aucun travail servile. Au verset 25, la même chose. Au verset 28, 30 pour le jour des expiations. Au verset 35, 36 pour la fête des tentes. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces fêtes, mais chacune parlait de l'œuvre de Dieu pour son peuple. Depuis la création jusqu'à leur libération au temps de l'Exode, jusqu'au fait que Dieu avait pris soin d'eux à ce temps-là dans le désert. Chaque fête évoquait le fait que Dieu était là pour son peuple, que Dieu prenait soin de son peuple. Et le peuple devait arrêter le travail. Arrêter le travail, ça veut dire se reposer sur Dieu. Ça veut dire, j'ai pas besoin de travailler parce que Dieu est là et il prend soin de moi. J'ai pas besoin de travailler et j'ai mieux à faire que de travailler. Mais en fait, il n'y avait pas que des fêtes, il y avait aussi des années spéciales. Tous les 7 ans, on trouve ça dans le chapitre 25, il y avait une année sabbatique pour les terres. En fait, ça obligeait à se reposer sur Dieu et dire, mais finalement, même quand je cultive pas une année tous les 7 ans, Dieu a prévu que les récoltes d'avant suffiraient pour survivre. Et je reste dépendant de Dieu. C'est pas mon travail qui fait que je vis, c'est Dieu qui prend soin de moi. Et puis tous les 49 ans, au bout de 7 jubilés, l'année d'après, la 50e année, les terres devaient revenir à la famille originelle. Parce qu'en fait, il y avait des accidents de la vie. Vous pouviez tomber malade et vous n'arriviez plus à cultiver vos terres. Ou vous étiez un feignant et vous cultiviez mal vos terres. Et finalement, vous vous endettiez et vos terres partaient à quelqu'un d'autre qui les achetait. Et le prix de la terre était fixé en fonction de si on se rapprochait du jubilé ou pas. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, toutes les terres devaient revenir dans la famille d'origine. En fait, Dieu prenait soin de son peuple. Dieu veillait à ce que les gens ne s'enrichissent pas énormément et que l'on ne s'approvise pas énormément. Dieu veillait à ce que l'on n'hérite pas des richesses de ses parents et que l'on n'hérite pas de la pauvreté de ses parents. Dieu veillait sur le peuple. Et toutes ces fêtes rappelaient au peuple que Dieu était là, qu'il prenait soin d'eux, qu'il prenait soin du peuple. Et en fait, le salut est individuel. Chaque personne allait voir le prêtre pour confesser ses péchés. Mais en fait, le projet de Dieu est communautaire. Le projet de Dieu, c'est pas moi, c'est nous, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu qui est son projet. Et ces fêtes nous rappellent finalement aussi que nous n'avons pas été créés pour le travail, et là je sais que beaucoup sont d'accord avec ça, mais pour le culte, pour le service à Dieu. Nous n'avons pas été créés pour le travail, mais pour le culte, pour rendre service non à nous-mêmes, mais pour rendre service à Dieu. Et les fêtes permettaient de retrouver finalement le temps de communion qui avait été vécu avant la chute. Les fêtes permettaient de revivre le temps de communion qui existait avant la chute. Nos cultes sont un peu de cet ordre. Semaine après semaine, on a un temps de rencontre avec Dieu. Un temps où le travail s'arrête, un temps où on est là, un temps où on veut écouter Dieu, un temps où on veut parler à Dieu, un temps où on veut se souvenir que toutes nos vies, notre salut, mais aussi notre vie sur terre, dépend de Dieu. Un temps où nous nous souvenons que notre vie dans le ciel, notre vraie vie aussi dépend de l'action et de la grâce de Dieu. Et voilà pour les rituels qu'on trouvait au début et à la fin du livre du Lévitique. Mais il y a une autre chose qui était à donner au peuple, c'était le sacerdoce. Et là, on va repartir en arrière et on va aller au chapitre 8. On a vu que dans la première section, pour s'approcher de Dieu, il faut des sacrifices. Et pour rester en contact avec lui, des fêtes qui nous libèrent de notre quotidien et pour nous faire vivre la communion avec Dieu. Et pour cela, il y avait un problème. C'est comment vous faites pour offrir des sacrifices quand vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu ? Eh bien, il fallait quelqu'un qui intervienne. Il fallait quelqu'un qui se tienne entre vous et Dieu. Quelqu'un qui représente Dieu auprès du peuple et qui représente le peuple auprès de Dieu. Des médiateurs. Des médiateurs que l'on va appeler, selon vos traductions, des sacrificateurs, parce qu'ils faisaient les sacrifices, ou des prêtres, que l'on va peut-être retrouver plus souvent aujourd'hui. Ceux-ci étaient désignés dans la famille, dans les descendants d'Aaron. Et en fait, ils vont un peu prendre ce rôle que Aaron avait auprès de Moïse quand il est allé auprès de Pharaon. Ils deviennent ceux qui parlent pour Dieu et qui écoutent un Dieu. Alors, on les a déjà vus en action dans les premiers chapitres, jusque dans les chapitres 1 à 7, puisque c'est eux qui ouvrent qui font les sacrifices. Mais dans ces chapitres 8 à 10, ils sont consacrés à leur fonction. Et dans ce chapitre, ce qui marque, regardez, au verset 6, qu'est-ce qu'il se passe ? On vient de dire que les médiateurs étaient des gens qui devaient se tenir entre Dieu et les hommes, parce que le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais regardez ce que Moïse fait au verset 6. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau, et il mit la tunique à Aaron. Et là, on s'aperçoit déjà qu'il y a un truc. C'est que même le prêtre, il avait besoin d'être lavé. Même le prêtre, il n'était pas pur. Mais on va découvrir ça au fur et à mesure. Au verset 7, au verset 13, il va jusqu'à offrir des sacrifices d'expiation pour Aaron et pour ses fils. D'abord, au verset 18, un bélier en holocauste, puis un sacrifice de reconnaissance, un bélier au verset 22 comme sacrifice de consécration. Ils en mangent une partie et puis ils restent 7 jours à l'entrée de la tente et au bout de ces 7 jours, ils vont être établis dans leur fonction. Et en fait, ces 7 jours nous montrent que les prêtres aussi avaient besoin d'être tenus à l'écart des impuretés. Et on verra ça un petit peu plus loin. Et la fin du chapitre souligne quelque chose d'intéressant et nous dit « Aaron et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. » Et quand c'est souligné, souvent ça veut dire que le reste du temps, c'est pas forcément vrai. Alors, on a ça qui est vraiment mis en valeur. Et dans le chapitre 9, on va découvrir les premiers sacrifices offerts par Aaron et ses fils. Et l'accent est encore une fois sur le fait que Moïse leur dit de faire ce que Dieu ordonne. Et que finalement, à la fin du jour, ils verront sa gloire. Et c'est ce qui se passe. Et on a une description fidèle de tous ces sacrifices. Et au bout de ce chapitre, ce qu'on lit au verset 22, c'est que Aaron lève ses mains vers le peuple, le bénit. Il descendit après avoir accompli le sacrifice pour le péché, l'holocauste, le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel, consuma l'autel sur l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. Vous voyez, on a quelque chose qui monte. Les prêtres sont consacrés au début du chapitre 8. Il nous est dit qu'ils font ce qu'il faut faire. Ils commencent, ils font leur premier sacrifice. Et Moïse leur dit, vous voyez, si vous faites les choses comme vous devez les faire, vous allez voir la gloire de Dieu et tout le peuple va en profiter. Et tout le peuple va voir la gloire de Dieu. Et on a quelque chose qui monte dans ces chapitres et là, on se réjouit, on dit, waouh, et tout le peuple est joyeux de ça. Pour s'approcher de Dieu, nous avons besoin d'un médiateur qui soit pur et saint et qui fasse ce que Dieu dit. Mais très vite, le chapitre 10 nous dit que les fils d'Aaron n'ont pas tardé à prendre des libertés. Et quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, ouais, écoute, franchement, il y a le feu, il y en avait dedans, il y en avait dehors. Eux, ils ont pris dehors, mais parce que ils étaient là à côté, ils l'ont pris, ils sont rentrés, en fait. Ils n'ont pas respecté en détail le commandement de Dieu. Ils sont rentrés dans la tente avec un feu qu'ils n'avaient pas pris sur l'autel à l'intérieur, mais à l'extérieur de la tente. Et ils sont brûlés immédiatement par un feu qui sort depuis devant l'Éternel. Et Moïse explique, il leur dit, mais j'arrête pas de vous le dire. Regardez ce que Dieu dit. Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Et Nadab et Abihu n'ont pas pris au sérieux la sainteté de Dieu et ils en sont morts. Et nous découvrons dans ces chapitres, finalement, que si nous nous approchons de Dieu par grâce, sa sainteté est dangereuse pour les pécheurs. Dieu avait averti Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. » La sainteté de Dieu est dangereuse pour les pécheurs. Alors Dieu utilise des médiateurs, qui eux-mêmes sont purifiés de leurs péchés, qui leur permettent de voir la gloire de Dieu. Mais ces médiateurs sont infidèles, aussi infidèle que le peuple. Et dès leur mise en place, nous voyons que le système est biaisé par le péché. Alors on va aller voir qu'est-ce que nous dit la section parallèle. Il faut qu'on passe en Lévitique 21. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu avertit. Ce qui revient tout le temps dans ces chapitres, tout le temps, tout le long, c'est un prêtre ne se rendra pas impur. Regardez, verset 1, un prêtre ne se rendra pas impur. Verset 4, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Donc il ne serait plus consacré à Dieu. Au verset 6, ils seront saints pour leur Dieu et ne déshonoreront pas son nom. Verset 11, il ne se rendra pas impur. Verset 23, « Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. » Verset 8, au chapitre suivant, « Afin de ne pas se rendre impur, etc. etc. » Pourquoi ? Parce que les prêtres, et encore plus le grand prêtre, se tenaient dans la proximité de Dieu pour remplir leur service. Et Dieu dit, en fait, au verset 23, « Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. » Et il le répète tout le long du chapitre suivant, « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel, vous ne déshonorerez pas mon nom. Afin que ma sainteté soit respectée. » Au milieu des Israélites, je suis l'Éternel qui vous considère comme saint et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. En fait, quand les prêtres, ceux qui représentaient Dieu auprès du peuple, n'étaient pas saints, ils déshonoraient Dieu. Et Dieu dit non, je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas permettre que mes représentants me déshonorent. Alors on a vu que dans les chapitres 8 à 10, les prêtres réalisaient les sacrifices pour les personnes du peuple et que pour cela, elles avaient accès au lieu saint et même pour le grand prêtre, une fois par an, au lieu très saint. On a vu aussi que les prêtres sont des pécheurs. Ils sont aussi des victimes de l'impureté contre le peuple. Alors Dieu instaure des règles pour les protéger, pour leur permettre de retrouver leur pureté, leur sainteté, afin que le peuple puisse rester dans la présence de Dieu. En fait, la sainteté du médiateur est nécessaire parce que tout le peuple est au bénéfice de cette sainteté. Troisième grand moyen de grâce que donne Dieu dans le livre des Lévitiques, la pureté ou les règles de pureté. Et là, on revient encore une fois en arrière et on va au chapitre 11. Parce que Dieu est pur, son peuple doit l'être. Mais dans ces chapitres, ce que Dieu nous montre, c'est que l'impureté est partout, en fait. Qu'elle guette chaque aspect de notre vie, qu'elle requiert notre attention, mais aussi notre soumission à ce que Dieu déclare pur ou impur. Je suis pas sûr qu'il comprenait tout le temps. Il y a beaucoup de théologiens qui ont essayé d'expliquer pourquoi tel animal était pur et impur, mais c'est compliqué, en fait. Et au final, on est obligé de dire, parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu a dit, et donc, on a essayé de faire des règles, mais il y en a toujours des petites choses qui fonctionnent pas, toujours des cas un peu particuliers. Et le chapitre 11 nous dit que l'on pouvait devenir impur en mangeant certains animaux, ou en touchant leurs cadavres. On devait les considérer comme impurs. Il nous dit que de la même façon, les pertes de sang féminines après la grossesse rendent impures, que des maladies comme la lèpre ou toutes sortes de maladies de peau, donc ça c'est le chapitre 12, chapitre 13, les maladies de peau, la moisissure, que ce soit sur les vêtements, ou chapitre 14, dans les maisons, les fluides sexuels, chapitre 15, rendent impures. En fait, chaque aspect de la vie vous mettez en permanence au contact de choses qui pouvaient vous rendre impures. Et en fait, face à ces impuretés, si on parcourt et qu'on passe de l'autre côté dans le, ces impuretés qui touchent les individus, c'est que chaque individu peut se rendre impur. On découvre qu'il y a un pan collectif et une pureté morale qui est attendue dans le chapitre parallèle, dans les chapitres 18 à 20. Et je passe très très rapidement là-dessus. Mais on voit qu'il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est l'intégrité sexuelle, le fait de se comporter de manière juste dans sa sexualité. La deuxième chose, c'est le soin des pauvres. Et la troisième chose, c'est la justice sociale parmi le peuple. En fait, tout ça mis ensemble nous montre que Dieu appelle son peuple à vivre différemment des peuples qui l'entourent. En fait, il dit « quand vous êtes mon peuple, ça se voit ». Ça se voit parce que vous n'avez pas les mêmes pratiques. Ça se voit parce que vous ne faites pas les mêmes choses. Ça se voit parce que vous avez une moralité qui est différente et qui est à mon image, à l'image de ce que moi je désire. Et il explique ça dans le chapitre 18. Regardez, verset 3. Oui, vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous conduis. Et en fait, je vous demande de vivre différemment de ce que vous avez vécu avant, et différemment de ce que vous pourriez découvrir en arrivant dans Canaan. Vous faites différemment des autres peuples. Et il finit cette section au verset 23, ça doit être... au chapitre 20, verset 23, 22 même. Vous respecterez toutes mes prescriptions, toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je l'ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. C'est moi qui vous le donnerai en possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominables par des animaux, des oiseaux et tout reptile de la terre que je vous ai appris à distinguer comme saint. Il ne se rendra pas impur, car je suis l'Éternel qui te considère comme saint. Je veux juste faire une remarque qui n'a rien à voir. J'ai très souvent entendu dire que l'homosexualité était un péché plus grave que les autres parce qu'il est dit comme étant abominable par Dieu. Ouais, toucher un serpent, c'était aussi être rendu abominable par Dieu. Il faut faire attention de ne pas prendre un verset isolé et puis de le déconnecter de toutes les choses qui sont abominables dans la Bible. Être impur, c'était être abominable devant Dieu, de toutes les façons qu'on le fasse. D'accord ? Fermez la parenthèse. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Il le répète tout le temps. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Vous serez saints pour moi, car moi je suis saint. Je vous ai séparé des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Souvenez-vous de cette image, hein ? L'impureté, c'est comme les chaussettes. Dans la machine à laver, ce sont toujours les blanches qui ressortent roses et jamais les rouges qui ressortent blanches. L'impureté va toujours dans le sens qu'elle se communique à ce qui est pur. C'est toujours quand celui qui est pur touche ce qui est impur, c'est celui qui est pur qui devient impur, et pas le contraire, sauf dans un cas. Lequel ? Jésus ou Dieu ? Oui, c'est juste. Seul Dieu communique la pureté et la sainteté. Seul Dieu, quand il touche l'impur, le rend pur. Ésaïe 6, par exemple. Ces chapitres nous rappellent que nous vivons dans un monde déchu, impur. Un monde, en fait, qui conduit à la mort. Et pour expliquer ça, je voudrais juste vous montrer ça rapidement. En fait, l'impureté pouvait être classée suivant trois grandes catégories. Les humains, les animaux et les lieux. Dieu est au centre. Dieu est saint et il est pur. Là où est Dieu, on a tout est saint, tout est pur. Mais plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'approche de la mort. Et en fait, plus on est impur. Regardez sur les animaux. Vous aviez des animaux qui étaient offerts en holocauste, qui étaient proches de Dieu. Et ils sont considérés comme très purs. Mais vous aviez aussi les animaux qui étaient déclarés par Dieu comme purs, ceux impurs, et puis les animaux morts, qui sont impurs. Et même un animal pur, quand il est mort, si on le touchait, on devenait soi-même impur. En fait, l'impureté parmi les impuretés, c'est la mort. Si on prend les lieux, vous aviez le lieu très saint, c'est le lieu où est Dieu, et c'est un lieu saint, pur, complètement. Mais ensuite, on avait le lieu saint, qu'il était un peu moins, et on pouvait rentrer sous certaines conditions, mais c'était bien moins exigeant que de rentrer dans le lieu très saint, où on ne pouvait rentrer qu'une fois par an, et où on devait faire de la fumée pour que Dieu ne soit masqué symboliquement. Et puis, il y avait le tabernacle, dans lequel on pouvait rentrer avec des conditions un petit peu moins exigeantes. Et puis, il y avait le camp, dans lequel on pouvait aussi, le peuple pouvait séjourner. Mais il y avait l'extérieur du camp, là où on mettait les gens impurs. Dans le camp, on les mettait à l'extérieur du camp. Et puis ensuite, y a le séjour des morts, le Sheol, là où les gens sont morts. Et quand on touchait un mort, on devenait impur. On a la même chose en termes d'humain. Vous aviez Dieu, qui est parfaitement saint et pur. Mais celui qui le représentait le plus, c'était le grand prêtre. Parce que lui, il avait une fois par an le droit d'entrer dans le lieu très saint. Mais il était le seul. Et après, il y avait un peu moins pur ou un peu moins d'exigence de pureté. On avait les prêtres, parce qu'eux avaient le droit d'entrer dans le lieu saint. Et puis après, il y avait les lévites, parce que leur famille était consacrée à Dieu. Et il y avait des règles particulières pour les lévites qui ne s'appliquaient pas aux autres. Et puis ensuite, on avait le peuple, parce que le peuple se distingue des autres peuples. Et puis ensuite, on avait les païens ou les impurs, et puis ensuite on avait à nouveau les morts. En fait, la pureté nous rapproche de Dieu et l'impureté nous rapproche de la mort. Au cœur de tous ces moyens de grâce que Dieu donne pour être pur, pour être pardonné de ses péchés, involontaire, pour être en relation avec Dieu, il y avait un jour particulier. En fait, c'est au cœur du Lévitique, et ce jour particulier s'appelait le jour des expiations. Et en fait, il nous présente deux sacrifices plus un. Il y avait deux boucs pour deux sacrifices, un bouc qui était destiné à l'Éternel, et un bouc qui était destiné à Azazel. Certains, vous avez peut-être bouc émissaire. En fait, on ne sait pas trop le traduire, ce terme-là, parce que le problème, c'est qu'on le trouve que dans le Lévitique. On le trouve nulle part ailleurs, donc c'est assez compliqué. Via les racines, on peut penser qu'éventuellement, c'est le bouc qui part dans le désert. On peut penser que ça évoque plein de choses. On ne sait pas trop, mais on connaît sa fonction. En fait, le bouc qui était destiné à l'Éternel était sacrifié, et puis Aaron mettait son sang sur le propitiatoire. Vous vous rappelez le propitiatoire? On a vu ça dans l'Exode, vous aviez l'arche. Dans cette arche, il y avait la loi, et puis il y avait un couvercle sur la loi, et ce couvercle, en fait, c'était le propitiatoire. Et donc le sang venait sur ce propitiatoire. Et puis pour l'autre bouc, Aaron posait ses mains sur la tête du bouc, et il confessait sur lui les péchés du peuple, et ce bouc était chassé dans le désert, et il partait symboliquement chargé des péchés du peuple. Et en fait, dans ce jour, Dieu donne lui-même une solution pour ne pas encourir sa colère. En fait, c'est assez rare que finalement celui qui est offensé propose lui-même à ses offenseurs les moyens de se réconcilier. Mais c'est exactement ce que fait Dieu. En fait, ce jour-là, tous les péchés du peuple étaient pardonnés, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Tous les péchés du peuple étaient pardonnés. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas de limite aux péchés qui puissent être pardonnés ce jour-là. Quand Aaron mettait ses mains sur la tête du bouc et que le bouc partait, les péchés étaient pardonnés. Quand le bouc était tué, que son sang était mis sur le propitiatoire, les péchés étaient pardonnés, tous les péchés. La seule chose qui était demandée, c'était la repentance. Et il y avait un troisième sacrifice, en fait. Il y avait un taureau qu'on découvre. Et ce taureau, en fait, le grand prêtre, vous savez, celui qui était tout proche de Dieu, celui où on a dit qu'il était le plus proche de Dieu, eh bien, il devait l'offrir pour lui-même et pour sa famille. Parce que même le grand prêtre n'était pas saint. Et même le grand prêtre, avant de pouvoir officier pour le peuple, devait d'abord officier pour lui-même. Et c'est assez ironique, parce qu'il offre deux chèvres pour le peuple, mais un taureau pour lui-même. Et ça montrait aussi la valeur qu'avait son péché et la valeur de sa sainteté nécessaire. Personne ne peut rester dans la présence de Dieu, que ce soit à cause de l'impureté, des péchés involontaires ou des désobéissances aux commandements. Personne ne peut rester pur, pas même Aaron, le grand prêtre. Lui-même ne peut pas s'approcher de Dieu sans offrir de sacrifice pour lui-même. Ce chapitre 16, il est cité. Il est cité par la lettre aux Hébreux. Et il applique ce chapitre à Jésus-Christ. Et on va lire dans la lettre aux Hébreux. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit par la main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a obtenu un rachat éternel. Lévitique 16, c'était tous les ans. Il fallait recommencer. Il nous a obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus vos consciences d'œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Lévitique, c'est une démonstration de la puissance du péché et de la grâce infinie de Dieu. Il patiente et pourvoit pour purifier, sanctifier son peuple. Mais le Lévitique, c'est aussi un cri de désespoir. C'est des centaines, c'est des milliers de victimes innocentes qui sont sacrifiées. Et année après année, c'est une boucherie permanente. C'est une odeur infâme de bêtes qui brûlent et qui ne résolvent rien, qui ne font que faire patienter Dieu. Dieu patiente pendant tout ce temps-là, mais ce n'est pas suffisant. La situation en elle-même ne change pas. Le Lévitique a vocation pour le peuple de Dieu de lui faire désirer autre chose, de quelque chose de plus grand, de plus complet, Jésus. En vivant tout cela dans toute sa vie de peuple, il aurait dû attendre Jésus. Il aurait dû attendre le Messie comme une délivrance de cette boucherie. Il aurait dû réaliser le poids, l'importance du péché pour Dieu. Il aurait dû réaliser combien la sainteté est grande. Mais en fait, nous souffrons des mêmes maux que le Lévitique. Et c'est pour ça que nous avons besoin de le lire. Parce que nous réalisons peu au quotidien combien nous sommes nous aussi impactés par la pureté. Combien nous sommes nous aussi impactés par nos péchés. Et donc, nous réalisons peu à quel point le sacrifice de Jésus est grand et important pour nous. Dieu ne nous demande rien, aucun sacrifice. Il ne nous demande aucun rite. Il ne nous donne aucune règle qui nous permette d'atteindre la pureté. Il ne nous donne aucune loi qui nous permette d'être saints. Il le fait. En fait, Jésus est la victime parfaitement innocente, parfaitement consacrée à Dieu, qui s'offre sans détour. En fait, il est une victime humaine, une victime qui peut compatir à nos faiblesses, qui peut comprendre ce que nous vivons dans un monde déchu, qui peut comprendre les faiblesses liées à notre humanité. Il est une victime qui a du prix parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est une victime qui prend nos péchés, nos impuretés sur la croix et qui nous laisse là en disant « Tu n'as plus rien à faire ». En fait, quand nous lisons le Lévitique, pour eux c'était un poids et pour nous c'est une délivrance. Pour eux c'était une accumulation de règles et de choses à faire. Et pour nous, ça nous rappelle tout ce que Christ a fait et que nous n'avons pas à faire. Quand on conclut le Lévitique sur les deux derniers chapitres, 26 et 27, nous avons un espèce de deal qui est fait entre Dieu et son peuple. Vous savez, au verset 3, « Si vous suivez mes prescriptions... » Et ils viennent de lire tout le livre du Lévitique, et là ils commencent à se dire « Ouf, ça va être compliqué de suivre toutes les prescriptions. » Imaginez le poids qu'il y a pour eux quand ils lisent « Si vous suivez toutes mes prescriptions. » C'est pas juste un petit truc. Lisez le Lévitique dans le détail. On ne peut pas le faire ce matin, bien sûr. Vous allez voir, c'est énorme tout ce qui est demandé. Si vous gardez mes commandements, vous vous rappelez de tous les commandements qu'on a lus dans l'Exode, toutes ces lois qu'il y avait. Si vous les mettez en pratique, et ensuite vous avez je, verset 4, verset 6, verset 9, verset 11, verset 12, verset 13, je ferai, je vous bénirai. Je prendrai soin de vous. Vous n'aurez à vous inquiéter de rien, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Le problème, c'est qu'on a le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, alors voici ce que je ferai. Et là, c'est déjà moins sympathique. Hein. La fièvre, les semences qui donnent plus rien, les fléaux par les ennemis, etc. On se dit, waouh, c'est pas cool. Mais on regarde au verset 18. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous punirai sept fois plus. Verset 21. Si vous me résistez et que vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai sept fois plus. Verset 23. Si malgré cela vous ne vous laissez pas corriger par moi et vous me résistez, je résisterai aussi, je vous frapperai encore sept fois. Et on a encore cela au verset 27. Et on arrive au verset 33, « Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. » Imaginez une seconde le poids que vous avez quand vous êtes le peuple de Dieu, que vous avez lu tout l'Exode, tous les commandements, que vous vous rendez compte de ce que ça va vous coûter, que vous avez lu tout le Lévitique, que vous vous rendez compte que de l'horreur que ça va être, et que derrière, l'avertissement,
incroyable qu'il y a. Et l'histoire nous dira que malgré l'avertissement, en fait, tout va se réaliser. Enfin, pas la première partie, la deuxième. La première partie un peu, mais la deuxième surtout. Jésus a vécu la première partie, a vécu l'obéissance complète pour que nous n'ayons pas à subir la seconde. Il a pris sur lui la seconde partie, les châtiments sept fois plus forts, sept fois plus forts, sept fois plus forts, sept fois plus forts, sept fois plus forts. Il les a pris sur lui pour que nous puissions vivre la première partie sans rien faire. Vous lisez tous les châtiments du deuxième. Pour nous, c'est juste la liste de ce que Jésus a pris sur lui à notre place. C'est ce qu'on devrait vivre. C'est ce qu'on devrait vivre. Mais Jésus, qui a vécu la vie parfaite, a pris toute la malédiction de Dieu. Une malédiction que l'on ne peut pas décrire, un poids que l'on ne peut pas exprimer sur lui, pour que nous puissions recevoir dans notre vie, présente et surtout future, les bénédictions de Jésus-Christ. Et je vous propose juste de conclure en lisant ces bénédictions. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, les arbres, des champs de leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la montange et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100 et 100 parmi vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants et je vous rendrai nombreux. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous. Je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. Il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a délivrés du maître cruel, qui nous a délivrés de l'esclavage de Satan pour nous rendre libres. Libres de vivre en sa présence. Le Lévitique, c'est la promesse que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous approcher, vivre dans sa présence. Et il le fait par Jésus seul. À lui soit toute la gloire. Amen.